Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus en 76, ce soir l'émission de La Brèche.
Vous avez dû vous en rendre compte, il y a eu un gros blanc, donc c'est bien La Brèche.
Voilà, on est très fort pour faire du blanc, pour pas parler pendant 5 minutes. Donc voilà, la première émission va commencer. C'est l'émission de février, elle porte sur les familles et les proches et
les proches des prisonniers et prisonnières.
Voilà.
Et les rapports difficiles qu'il y a avec notamment l'administration pénitentiaire, tout ça. On rappelle que La Brèche, c'est une émission contre les prisons, qu'elle a lieu tous les premiers vendredis du mois et que vous pouvez appeler si vous avez des témoignages ou des dédicaces à faire au
03 20 94 91 24 00. Oups.
03 20 91 24 double 0.
Eh ben c'est parti.
Eh ben c'est pas parti, c'est pas grave. On va passer tout de suite sur ce qu'on va raconter un peu. C'est quoi, de quoi allez-vous nous parler ce soir, les amis?
Donc il y a une première partie qui va s'attacher à parler de la stigmatisation en général des proches de détenus, un peu sur le regard des autres, etc., que subissent les proches de détenus. Une deuxième partie qui sera consacrée plus aux atteintes à la dignité que donc subissent toujours ces proches de détenus. Et enfin, on terminera
par les moyens de pression.
Voilà.
L'utilisation du parloir et de d'autres cas comme moyen de pression, aussi bien sur le prisonnier et la prisonnière que sur ses proches. Et donc, comment leur faire fermer leur gueule d'une façon indirect, comme d'autres en bleu le font dans le métro.
De façon plus directe.
Donc on va bientôt commencer, on va mettre un petit jingle si jamais on arrive à lancer le truc. Mais
non.
Mais il est cassé.
Le truc rassurant, c'est que c'est pas une erreur humaine cette fois-ci.
Et surtout, de toute façon, il faut qu'on ait une identité propre et je crois que...
Alors on l'a trouvé.
Faire n'importe quoi, c'est notre domaine.
Donc vous êtes bien sûr RTL, hein. Les grosses têtes, on le rappelle.
Radio Campus, 106.6, la radio qui met les puces. Donc on va peut-être commencer l'émission, pas, parce que là on galère un peu grave. Donc l'intro on l'a faite, hein, la présentation on l'a faite. Si jamais vous voulez nous appeler, peut-être pour nous engueuler parce qu'on est trop nul, c'est le 03 20 91 24 double 0. Sinon, voilà, donc on voulait parler de la situation aussi de l'autre côté des murs, qui sont les proches ou familles de prisonniers, prisonnières.
C'est parti. Non.
Voilà, donc on va peut-être commencer.
Avant de commencer, dire aussi que tout ça va être ponctué d'extraits sonores. Donc ouais, pour rappeler les sources. Donc il y aura des extraits d'une pièce de théâtre qui a eu lieu en janvier 2002 au Zem Théâtre, qui s'appelle Femme de Parloir, qui est tirée de l'ouvrage du même nom de Dushka
Simovic,
à l'esprit frappeur. Il y aura aussi l'extrait d'une interview de Dushka. Et enfin, l'extrait d'une interview de Laurette, dont la fille est incarcérée depuis plus d'un an. Voilà.
On commence.
Donc, allez, c'est parti. Donc, en ce qui concerne les impacts de la prison sur les proches des prisonniers, de manière générale, c'est le regard des autres qui pèse un peu sur les femmes, les maris, enfin tous les proches des détenus. En gros, l'idée générale de cette émission, c'est de dire que la peine que purge le prisonnier est aussi une peine qui pèse sur ses proches. Cette double punition perturbe à la fois leur vie sociale, familiale et professionnelle. Donc elle implique une stigmatisation des proches de détenus par la société en général. Donc cette stigmatisation peut s'illustrer à trois niveaux, une stigmatisation individuelle, une stigmatisation familiale et une stigmatisation plus générale sociale. Donc la première stigmatisation est le poids du regard des autres en général qui perturbe l'attitude individuelle vis-à-vis d'autrui. Faut-il dire ou non qu'on a un proche, un mari, un frère incarcéré? Les attitudes individuelles varient selon les personnes. Certains choisissent le silence, d'autres au contraire tentent de maintenir des liens avec l'extérieur en assumant leur situation. D'autres au contraire peuvent en avoir honte ou culpabiliser, très mal vivre cette situation et ne pas l'assumer. enfin autant de réactions individuelles qui montrent bien que la prison stigmatise, c'est-à-dire qu'elle laisse des marques autant sur le prisonnier que sur ses proches. Une deuxième stigmatisation qu'on verra, qui sera plus développée avec un extrait sonore, et la stigmatisation qui s'illustre à travers le regard de la famille et du voisinage, et qui peut être une source d'exclusion des proches de détenus. Et enfin, la dernière stigmatisation est celle qui s'illustre dans le domaine professionnel, dans le regard de... Pardon, encore une erreur technique. C'est bien le bordel ce soir. Donc je reviens donc sur le troisième côté de la stigmatisation qui s'illustre dans le domaine professionnel, dans le regard de l'administration et de la société en général, qui révèle souvent qu'à ses yeux, être un proche de détenu, c'est un vrai poids. Et pour dire aussi que c'est en général les plus pauvres qui en sont les plus touchés, ayant encore plus de mal à maintenir une situation sociale déjà précaire, notamment à travers ce que coûte pour eux financièrement la prison en termes de trajet, de téléphone, dans ce qu'ils peuvent ou non donner aux détenus, etc. Où là, ce sera aussi le thème sera aussi développé par illustré par un extrait audio. Juste pour finir, dire au sujet de la stigmatisation que les nouvelles lois vont pas arranger les choses. D'abord parce que la prison est plus que jamais avancée comme la solution au problème de délinquance. Et plus particulièrement ici parce que ces nouvelles lois dont on a déjà parlé dans d'autres émissions stigmatisent encore plus, ont tendance à encore plus stigmatiser les proches de ceux qui commettent des actes de délinquance, notamment les mesures qui visaient les familles des jeunes délinquants. Donc voilà, donc on va illustrer ce propos que je viens de tenir de trois extraits sonores, si tout va bien. Voilà.
J'ai fait pendant plusieurs mois le trajet Bordeaux-Poissy chaque semaine. Je partais à 5h du matin pour être à 11h l'une des premières dans la file d'attente devant les portes de la centrale.
Dans l'autobus du petit matin, je rencontrais les habitués, infirmières, aides-soignantes allant prendre la relève de la garde de nuit, ouvriers boulangers partant pour la première fournée, travailleurs en 3-8, ils se connaissaient tous, ils s'échangeaient des nouvelles de la famille. Moi, je restais dans mon coin, en sommeil.
Avant de m'installer près de la prison, j'ai fait pendant plusieurs mois le trajet Bordeaux-Poissy chaque semaine. Je partais à 5h du matin pour être à 11h l'une des premières dans la file d'attente devant les portes de la centrale.
Dans l'autobus du petit matin, je rencontrais les habitués, infirmières, aides-soignantes allant prendre la relève de la garde de nuit, ouvriers boulangers partant pour la première fournée, travailleurs en 3-8, ils se connaissaient tous, ils s'échangeaient des nouvelles de la famille. Moi, je restais dans mon coin, en sommeil, pour ne pas avoir à dire où je me rendais. Je m'excluais moi-même, j'en conviens. Je craignais déjà le regard des autres. Je n'avais pas honte, mais je ne voulais pas avoir à expliquer encore et encore, à me justifier auprès de gens qui au mieux me prêteraient une oreille.
pénitentiaire. Mais...
Ah bah ça a changé beaucoup de choses dans nos relations. D'abord dans une partie de la famille et puis dans les relations qu'on peut avoir avec certaines personnes. Bon, certaines qui ont pris leur distance et puis d'autres qui au contraire se sont un petit peu rapprochées. Bon, on nous demande des nouvelles, on demandait des permis de visite pour Muriel, etc. Donc vraiment là il y a eu un clivage très net auquel je ne m'attendais pas. Ça a été vraiment une surprise. Il y a des gens qui... Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ces réactions.
Dans
ma famille, dans l'entourage. Et là, on voit bien quoi que... Et puis maintenant, je me rends bien compte, quand je dis je suis contre la prison, des réactions archi-négatives que ça peut provoquer chez tout le monde. Tandis que maintenant, cette année, bon, je travaille pas et je fais quand même attention. Bon, ma voisine ne le sait pas, par exemple. Je lui dirai peut-être un jour, ça dépend. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits, c'est... Bon, ça dépend. Mais je répète, moi, c'est différent parce qu'on a une autre conscience de ce que représente un prisonnier politique. Pour un droit commun, ça doit être beaucoup plus dur, parce que là, c'est encore plus stigmatisant d'avoir volé, d'avoir tué, d'avoir... Les prisonniers politiques n'ont pas conscience d'avoir fait du mal. Eux, ils se battent pour une cause. Donc, enfin, je parle en termes un petit peu schématiques. Hein. Donc, les réactions des gens ne sont pas forcément les mêmes, je crois.
Donc, comme vous avez pu le constater, on a eu des problèmes techniques. Il y a des extraits sonores qui sont un peu passés à la trappe, qui risquent encore de passer à la trappe. Donc là, c'était un extrait d'une interview qu'on a fait au mois de février, fin janvier, de Laurette, la mère d'une fille qui est incarcérée depuis plus d'un an, et qui parlait des problèmes qu'elle a rencontrés avec sa famille sur le sujet de la prison quand sa fille a été incarcérée ou qui a subi un petit peu
a subi ce que tous les gens proches, famille de détenus subissent quotidiennement chaque fois qu'ils vont pour un parloir ou qui voilà, elle a raconté sa situation. Il y aura d'autres passages de l'interview de Laurette qui vont se passer durant l'émission. Donc on a fait la première partie qui était la stigmatisation des familles en tant que famille de prisonniers et prisonnières. Et on va passer à un deuxième point qui est les
atteintes à la dignité,
ouais.
Que subissent l'entourage des détenus. Et donc on va commencer cette partie-là avec encore un extrait de l'interview de Laurette. Qui parle des différentes atteintes à la dignité qu'elle a pu subir.
C'est quelque chose d'avilissant. C'est encore plus avilissant que ce que je pensais. C'est avilissant pour les détenus, pour les prévenus, pour tous ceux qui sont dedans, et c'est avilissant pour ceux qui y vont, parce qu'on se retrouve dans une position de où on nous manque de respect tout le temps, où on manque de respect aux gens qui sont détenus et aux gens qui vont voir les détenus. On est complètement réduit à l'état de choses. On est des suspects continuels. Ou des dangereux potentiels, je sais pas. Ils doivent s'imaginer qu'on peut mettre des kalachnikovs dans nos poches ou qu'on peut transporter des kilos de drogue à chaque parloir. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais on a l'impression de ne plus être des personnes. On n'est pas fouillés, nous, mais on passe par des portiques. Et il faut pas que ça sonne. Et quand ça sonne, il faut se déshabiller. Bon, enfin... retirer tout ce qui sonne. Alors les chaussures, les ceintures, les manteaux. On a même fait retirer son soutien-gorge à une basque qui passait sous le portique à la santé. Bon, d'une façon assez violente d'ailleurs. Ils ne cherchent pas... On est des coupables potentiels au même titre que ceux qui sont en prison. On est suspects comme eux. On n'est jamais présumés innocents, ni eux ni nous. Après, il y a le fait qu'on a l'impression d'être sans arrêt violé, parce qu'on n'a jamais de moments vraiment d'intimité avec la personne qu'on va voir. Hein, qu'on soit sa femme, son mari, sa mère, des amis, on est en vue des matons, des gardiens ou des gardiennes, et qui se permettent quelquefois d'ailleurs de nous considérer comme des sages, comme dans un zoo. Quand j'y vais avec la petite fille, que la petite fille joue avec son père ou avec sa mère, ils viennent se mettre à la fenêtre, à la vitre, pour admirer la petite fille, pour rire des jeux entre la mère et l'enfant. Ils n'ont absolument aucune conscience de l'aspect voyeuriste que ça implique, et du mal qu'ils peuvent faire à ceux qui le subissent, en fait. Je crois qu'ils n'ont pas conscience de ça. L'autre jour, j'avais envie d'apporter des cacahuètes pour leur montrer que c'était pas forcément nous qui étions dans le zoo, quoi. C'était... On a l'impression, quelquefois, d'être des animaux dans un zoo.
Voilà, donc là, Laurette explique une bonne partie des contraintes qui peuvent être exercées par l'administration pénitentiaire à l'encontre des visiteurs et aussi des détenus. Donc toutes ces contraintes, elles sont justifiées plus ou moins officiellement par une question de sécurité. Mais l'absence de sens de la plupart de ces contraintes montre bien à quel point cette question de sécurité est plus un prétexte qu'une finalité. Des ordres, les règles et les interdictions les plus aberrantes sont dictées à quiconque entre en prison. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre du parloir, on doit subir le même rapport de soumission et d'infantilisation de la part de l'administration pénitentiaire. Et bien entendu, les matons en profitent largement puisque le système même et son fonctionnement légitiment la plupart de leurs abus. Donc Laurette a expliqué dans ce passage comment se déroulent les fouilles avant le parloir. C'est l'occasion pour toutes sortes de brimades, de mépris et de comportements injurieux. Et on a eu ainsi le témoignage à l'os du fait que des matons proposeraient à des femmes détenues de coucher avec eux contre certains avantages comme des prolongations de parloir ou le fait de laisser passer quelques petits trucs par-ci par-là. Donc d'une manière générale, c'est un exemple parmi tant d'autres du fait qu'il n'y a aucun égard envers les proches de détenus. Ils sont indignes d'un quelconque égard, comme si l'indignité qui frappe les détenus serait un peu comme contagieuse. Cette indignité va de pair avec la suspicion qui pèse sur tous les visiteurs qui sont susceptibles d'être complices ou plus ou moins responsables du sort du détenu. Pendant le parloir, le regard des matons est omniprésent et leur écoute est constante, comme l'a dit Laurette. Donc ce regard vise autant le détenu que le visiteur, c'est leur relation même qui est considérée soi-disant comme une menace. Et si ça peut paraître en apparence un simple contrôle anodin, parce que voilà, ils sont là et qu'ils sont un peu obligés de regarder. À force, le regard est beaucoup plus une provocation et rappelle que chaque geste qu'on peut avoir dans un parloir est soumis au bon vouloir des gardiens. Et parmi ces gestes prohibés, bien entendu, il y a toute relation sexuelle. Le déni de sexualité comporte systématiquement la peine de prison et par extension une punition qui est aussi infligée aux partenaires des détenus. Et en ce sens, la prison est un carcan pour tous les corps, qu'ils soient écroués ou non, dès lors qu'on a affaire à elle. Et là-dessus, on va écouter un extrait de la pièce « Femme de parloir ».
Cette société endormie qui ignore ses prisonniers pour ne pas penser sa confiance, personne qui veuille penser une minute à ces couples qui s'aiment et qu'elle condamne à la masturbation partagée sur rendez-vous. Ah, alors vous règlez le problème en conseillant d'abandonner l'homme soumis à une lampette. C'est pas les mains de l'attendre. Ou bien de s'octroyer une sexualité pâle. Il n'a pas mérité autre chose que d'être bafoué. On cautionne sans état d'âme la castration pénitentiaire, en donnant de surcroît au prisonnier un sentiment de culpabilité envers la femme qu'il aime.
Alors, Si jamais un détenu est surpris avec ou une détenue est surpris avec son partenaire, compagnon, compagne, avoir des relations qui sont qualifiées par l'administration d'actes susceptibles d'offenser la pudeur, il s'expose à des sanctions d'isolement et à des suppressions de visite, donc qui sont aussi une punition déguisée pour le visiteur ou la visiteuse. La privation de rapport physique est justifiée encore une fois par la question de sécurité, mais il y a bien d'autres raisons qui sont moins avouables. Et l'expérience sans résultat des unités de vie familiale peut en témoigner. Donc les unités de vie familiale, c'est grosso modo des locaux qui sont mis à disposition des détenus pour recevoir leur compagne ou leur famille. Donc selon les pays, les temps sont très variables. Et voilà. Il y a eu quelques tentatives en France, mais ça n'a pas été étendu. Et sur ce point, donc il y a beaucoup de points de vue qui s'opposent, mais ça, sur ce point, oui.
Ça n'a pas été mis en place du tout même, les UVS. Ça a été un projet médiatiquement annoncé par Guigou, mais...
Qui n'a pas été mis en place.
Qui n'a pas été mis en place, c'était à la suite de l'affaire autour du bouquin de Vasseur. Enfin, c'est ce que Douchka nous avait dit lors de son interview.
Voilà, bah justement, sur ce point, il y a... On va écouter un extrait de l'interview de Douchka et qui expose un premier point de vue sur la question.
Je ne sais plus comment il s'appelle, pour être instauré par la loi Guigou. Les UVF ?
Ouais.
Il n'y en a pas, hein. Ils ne marchent toujours pas.
Ils ne marchent toujours pas ?
Bien sûr que non, c'était un leurre.
Mais même dans l'absolu, qu'est-ce que tu penses de ce genre de...
Je suis contre.
Je m'en doutais.
Mais alors, contre, complètement contre. J'estime qu'il ne faut pas faire venir les familles vivre dans la prison. Il faut donner des permissions pour que, si on veut créer des liens familiaux, les gens aient les vivre chez eux. On ne vit pas, sa vie amoureuse et familiale dans un parloir ou dans un UVF. On le vit chez soi.
Ouais, si tu peux préciser, l'UVF, c'est...
L'UVF, unité de vie familiale. C'est calqué, ça veut être calqué sur ce qui se fait au Canada. Alors, on te fait un petit HLM avec un petit jardin et puis les familles viennent vivre en prison. Moi, j'accepterai jamais ça. Je n'ai rien fait pour aller en prison. Donc, j'y vais pas.
Et c'est un hasard que ce soit fait à Poissy
C'est pas fait.
Non,
on va. Alors, en plus, dans le livre, je le dis, Elisabeth Guigou avait dit clairement, étant donné l'allongement des peines, autrement dit, elle ne s'insurge pas du tout contre le fait qu'on allonge les peines, ben, puisqu'ils restent longtemps en prison, on va leur envoyer leur femme et leur gosse.
Ouais.
C'est quoi ça? Et c'est très dur de le faire passer aux femmes. On a des jeunes femmes avec qui je me frite sévèrement, hein, parce qu'elles, elles en veulent de ça.
Ouais.
Et elles ont, comme elles sont très frustrées dans leur vie sexuelle et sentimentale et affective, elles se disent qu'au moins elles vont passer un week-end tranquille avec leur mari, dans les draps fournis par l'administration pénitentiaire, avec le préservatif de l'administration pénitentiaire, et puis elles ne vont pas plus loin que ça. Mais quand je leur dis, mais est-ce que tu as seulement songé que dans ces cas-là, du moment qu'on leur renvoie leur famille, on va aussi continuer, on ne leur donnera pas de libération conditionnelle, les juges et les jurés aux assises, ils ont leur femme, c'est même pas la peine de. Et au lieu de dire de mettre 15 ans, on en mettra 20, et puis voilà, c'est comme ça. Oui, c'est très clair, c'est très clair.
Voilà, donc un premier point de vue. Il y en a un autre qui est notamment exposé dans le communiqué d'Arles. Donc je ne sais pas si un de vous peut expliquer mieux que moi ce qu'est le communiqué d'Arles, vite fait.
Le communiqué d'Arles, c'est donc en fait un communiqué clandestin sur support vidéo, en fait, qui a été réalisé par des prisonniers de la maison centrale d'Arles, dans le sud de la France, et qu'ils avaient réussi en novembre 2001, ou octobre 2001, à faire passer à l'extérieur, et donc où ils parlaient pendant donc un quart d'heure de ce qui se passe à l'intérieur des prisons, et où ils exposaient les revendications qui sont assez souvent reprises dans les luttes collectives de détenus, donc l'abolition des quartiers d'isolement, la libération des détenus malades et en fin de vie, et une troisième revendication, là je suis à froid et j'arrive pas à m'en rappeler, mais en tout cas toutes les revendications principales.
Oui, ça avait été...
Dans le droit à la sexualité, enfin d'avoir une sexualité.
Ouais, et ça notamment, ouais, ça c'est un sujet qui était évoqué. Ouais.
Et ça avait été diffusé sur France 3 dans le jour.
Il y a une petite partie qui a été diffusée sur France 3 avant l'intervention de la ministre de l'époque qui était Guigou, je crois bien.
Non,
non, non, non, non, non.
L'autre. Celle d'après.
Le branchu.
Le branchu. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, la vidéo, elle est disponible au journal L'Envolée. Et si vous la choper, c'est 4 euros, je crois. Et c'est 63 rue de Saint-Mandé, 93 000 Montreuil, en France. Et voilà, elle est en différentes langues. Donc, selon les trucs, selon vos langues, vous pouvez l'acheter.
Voilà, donc c'est une petite parenthèse sur le communiqué d'Arles. Mais donc tout ça pour dire que donc des une longue peine et aussi donc leurs compagnes, comme en parle Douchka, peuvent être à l'inverse de ce qu'elle dit, peuvent être eux pour l'instauration donc de système du VF et qui constitue dans l'immédiat pour eux peut-être le seul moyen de rétablir des liens familiaux ou conjugaux. Donc voilà, c'est deux points de vue qui peuvent pas forcément s'affronter, se défendre, je sais pas. Enfin bon, bref, donc le mépris pur et simple que subit l'entourage des détenus peut pas toujours se cacher derrière des prétextes sécuritaires. Et notamment, les conditions d'attente ne se justifient absolument pas par ce biais-là. De l'obtention du permis de visite en passant par les coups de téléphone pour obtenir un parloir, l'attente devant la porte, etc. Donc tout ça jusqu'à l'entrée même dans le parloir. L'attente est très très longue, elle est en elle-même insultante. Et en plus, elle est l'occasion de nombreux comportements injurieux que doivent subir les visiteurs. Et là-dessus, on écoute un extrait de la pièce « Femme de parloir ».
Nous faisions la queue sur le trottoir. Souvent regardée avec mépris par les passants, quelquefois même carrément insultée. La première fois que je me suis rendue à la prison, j'ai dû demander mon chemin. Prison, ça n'est inscrit sur aucun panneau directionnel. Ça fait peur aux touristes. Quant à type que je croise devant la prison, je crois autorisé à me demander si on peut baiser au parloir. Alors là, je suis blessée jusqu'au fond.
No more the smell that was nurtured in hell, no more of the fear that these bastards hold dear. We're all just as poor as their victims before, so forget all their lies and open your eyes.
A searchlight just burst into action. A searchlight just burst into action.
Community. Oh, that's how it seems. But if you take a closer look behind the scenes, there's a very different picture. No one comes out at night. There's worried looks of faces, and there's guns in sight. There's guns in sight. So brothers, take arms. We shout over the alarms. The flag is flying and the children are crying. They've had their ugly head and the innocent are dying. Brothers, take arms. We shout over the alarms. They declared war, but they wasn't ready for punks with guns. Situations, green extreme reactions. There's no sitting on the fence for this frontline faction. The barricades are taken down and the sirens are calling. The punks to the front line, where their democracy is falling. Your democracy is falling. Brothers, take arms. We shout over the alarms. flag is fine and the children are crying. I bite their ugly head and the innocent are dying. Brothers, take arms. We shout over the alarms. They declare war, but they wasn't ready for punks with. Punks with. With.
Voilà, c'était donc Pain, un groupe anglais qui a fait une reprise d'un groupe anglais encore plus vieux qui s'appelait RDF.
On vous rappelle que vous écoutez La Brèche, qu'on est sur le 106.6 Radio Campus. Comme tous les premiers vendredis du mois, c'est l'émission contre toutes les prisons. Vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00, notamment pour envoyer des dédicaces aux prisonniers et prisonnières qui nous écoutent à Los, à Douai, puis on espère plus loin encore.
Voilà, et puis on s'excuse un petit peu des petits problèmes techniques qu'on a eu au départ. Des fois on maîtrise, des fois on maîtrise pas. Voilà. Tout de suite, un petit morceau encore de Femme de Parloir, la pièce.
D'un permis, donc pas un droit. En aucune façon ne peut contester le refus de permis de visite. Le juge d'instruction peut l'utiliser comme moyen de pression morale. Il se retranche sur des positions de sécurité de bon déroulement de l'enquête qu'une éventuelle complicité conjugale pouvait mettre à mal. Souvent, ce n'est que le moyen de faire prier un prévenu récalcitrant. Et ça peut marcher d'ailleurs. Tout au long de l'instruction, le couple est déstabilisé. Les parloirs sont hypothéqués parmi l'angoisse et le danger pour le prisonnier comme pour sa femme.
Ce qui devrait être un moment particulier se révèle être en fait être une sorte d'épée de Damoclès. En effet, il faut savoir que le parloir n'est pas obligatoire et peut être donc supprimé par n'importe quel motif, aussi bien par un placement au mitard que l'envie de laper de se venger d'un prisonnier trop rebelle. De plus, il varie en fonction des différentes prisons, sa durée, les jours possibles, le type de prison. Il y a une différence entre les maisons d'arrêt et les centres de détention.
Et les maisons centrales.
Et les maisons centrales. C'est tellement, ce moment tellement important pour la vie du prisonnier et de ses proches s'accompagne vite de moments de stress, voire de peur. Peur de ne plus y avoir accès. Le transfert vers une prison lointaine peut également être une possibilité de perdre son parloir. Pas forcément par une décision, mais la longue distance peut être un obstacle, du moins au niveau de sa fréquence.
Tiens, le départ en centrale. Jamais connu à l'avance, bien entendu. Les familles se heurtent à la porte de la prison pour apprendre que le prisonnier a été transféré. Sécurité oblige. Ordre bien, bien sûr. Mais après coup, ce jour-là, on a la vente en larmes. On ne sait plus où il est. Et on rentre chez soi avec un vide cruel au fond du ventre.
Il va falloir prévoir les voyages. Des milliers de kilomètres par an. C'est cher et épuisant. L'organisation de la vie familiale en est hypothéquée. On a... maximum. Et là encore, l'incohérence est la règle. Selon la prison, le rythme des parloirs est différent. À Poissy, les parloirs n'ont lieu que les week-ends et les jours de fête, et à Clairvaux, c'est tous les jours de la semaine. Dans les salles d'attente, c'est le bureau des pleurs, le guichet des revendications, le confessionnal parfois, quand on a des idées d'abandon, quand il y en a tellement marre. La femme de parloir est si souvent tentée de ne plus revenir.
Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus que les dialogues de cette pièce, qui était ma foi fort intéressante. Donc voilà, il y a ce problème du parloir, et il y a un autre cas qui se présente aussi au parloir, c'est quand lorsque les prisonniers prisonnières ont une famille et des enfants. Donc se pose la question de la situation de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on l'emmène voir son père, sa mère, son cousin, son oncle, un pote, je sais pas. Et donc est-ce qu'on lui fait subir soit le voyage lorsque le proche est enfermé très loin, la situation de la prison, des quatre murs, des bruits, du contact avec les matons qui est pas forcément évident. Même quand on est tout petit, on sent vite qu'il y a une tension et quelque chose d'anormal. Et surtout comment on présente la prison à un enfant. Parce que voilà, on va lui dire ton père, ta mère, elle est là, tu vas la voir, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui parler une demi-heure, sous le nez, sous la vue de personnages en uniforme, et bien après tu vas repartir, puis elle va rester là. Et tu vas attendre longtemps avant de la revoir. Donc c'est un petit malaise qui peut se poser, et on va écouter un petit passage de Lorèze qui en parle très bien. Tout de suite.
Et quand on y va, nous, en parloir normal, elle est dans les mêmes conditions que nous, avec des choses apparentes. On a le droit de rien porter aux prisonniers. Donc l'enfant n'a pas le droit d'apporter non plus quelque chose. On n'a pas le droit de prendre des biberons, par exemple, pour les petits bébés. On n'a pas le droit de prendre d'eau. On n'a pas le droit de prendre un petit truc à grignoter pour que éventuellement l'enfant puisse supporter l'heure si c'est un peu long pour... Et la mère n'a pas le droit de donner quelque chose en main propre à l'enfant. Alors ma fille, par exemple, fabrique des petits objets pour sa fille, mais elle n'a pas le droit de les lui remettre. Alors un gamin de 2 ou 3 ans, c'est difficile de lui faire comprendre que c'est sa mère qui l'a fait pour elle. Il faudrait vraiment qu'il y ait la possibilité de le donner en main propre. C'est vraiment des règlements aberrants. Idiots. Les liens familiaux ne doivent pas être distendus, doivent être maintenus, mais tout est fait pour que ça ne soit pas vrai, que ça fonctionne pas. Moi, je crois que c'est aussi, mais bon, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai été enseignante et la pédagogie m'intéresse. Je trouve que c'est un exemple lamentable pour les enfants. C'est vraiment leur donner une éducation à rebours. On leur donne un exemple de punition.
Voilà, donc voilà, c'est le passage de Lorette. Je crois qu'il y a plein d'autres cas, plein d'autres exemples comme ceux que Lorette a cités, où on fait tout pour que voilà, la situation des enfants, la visite des enfants qui devrait être un moment agréable, se retrouve vite être un cruel dilemme. Savoir est-ce que on privilégie d'abord on se privilégie d'abord, c'est-à-dire on veut voir son gamin et puis on essaie de mettre à côté. plutôt les côtés difficiles pour lui, ou alors ben du coup on se dit que c'est peut-être un peu dur pour lui, pour elle, et que du coup ben on se décide de plus de pas le voir, d'attendre soit la fin de la peine, soit d'attendre un peu, je sais pas, d'attendre du temps. Et donc ça rajoute une pression et rien n'est fait vraiment, enfin tout est fait, pardon, plutôt pour justement compliquer, mettre de la pression sur le prisonnier et la prisonnière avec la situation des enfants. Rien n'est conçu pour rendre la visite un minimum agréable. Donc voilà, ça c'était le deuxième moyen de pression qui peut être utilisé. Puis il y en a un autre aussi, un troisième dont on voulait parler, qui est le cas du courrier, et Philippe va vous en parler un petit peu.
Bah oui, parce que pour l'instant on a parlé beaucoup du parloir, mais on n'a pas trop parlé du courrier. Alors le courrier, c'est aussi une des formes de contact humain qu'on peut avoir en étant en détention, qui est mise sous contrôle de l'administration pénitentiaire et du juge. En effet, par exemple, le courrier est lu, donc déjà c'est déjà pas mal. Ensuite, il peut être censuré, et la censure peut même carrément annuler le parloir. Donc,
on en revient un peu au début. Pour n'importe quoi, hein, ça peut être censuré. On a vu le cas de Christophe qui nous écrivait, qui était d'ailleurs le premier à nous écrire et le seul, qui lui s'est fait plusieurs fois censurer son courrier parce que, alors je sais plus le numéro de. Enfin, le. Quel article du code de procédure pénale était appliqué, mais bon, voilà, à partir du moment où ça comporte des propos, des images, des machins, n'importe quel courrier peut être censuré et mis de côté, et donc bah, on l'a pas, quoi. Et ce qui entraîne justement la suite, c'est que bah, des fois il y a des malentendus sur le fait que bah, on envoie un courrier, bah, il est pas reçu, pendant plusieurs mois on n'a pas de nouvelles, on se demande quoi, et il se passe bah, plein de choses dans la tête des gens, quoi. Savoir pourquoi on m'écrit plus, pourquoi il y a tout ça qui se met en place. Donc,
voilà. Généralement, quand c'est censuré, on dit jamais que c'est pour des motifs politiques ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va à l'encontre de la réinsertion du prisonnier ou de la prisonnière, ce qui fait bien rigoler tout le monde.
Voilà, ouais, la fameuse réinsertion dont on sort à chaque fois.
Il y a ça, mais pour le courrier, en fait, c'est surtout basé sur un article qui est super ambigu, je me souviens plus du numéro, mais qui dit en gros qu'il peut être justement censuré, ce courrier, si les propos sont jugés insultants pour l'administration pénitentiaire ou pour ses membres. Donc, comme la plupart des règlements de prison, de toute façon, c'est des articles qui sont soumis à une interprétation complètement libre de la part de qui peut la lire.
Outrage et rébellion, par exemple. Donc voilà, on va repasser un petit passage de Laurette pour conclure cette petite partie dont on s'occupait.
Ce qu'il y a aussi, je crois que ce qui est au cœur de tout le monde, c'est la peur. Il y a peur de tout. On est imprégné de peur. Alors la peur de ne pas avoir le parloir, parce que c'est long, hein, il faut téléphoner, retéléphoner. La peur de ne pas arriver à l'heure. La peur du portique qui va sonner. Mais c'est des peurs ridicules, hein, parce que bon, c'est pas... Et puis la peur de ce qui peut se passer à l'intérieur quand on n'y est plus. Bon, il y a quand même pas mal de suicides en prison. Il y en a eu deux à Loos récemment, deux à Fleury-Mérogis. Bon, quand on apprend les suicides, on se dit merde, est-ce que le mien va supporter? Est-ce qu'il va pas craquer? Est-ce qu'un de ces jours, on va pas avoir un coup de téléphone qui va nous dire qu'il lui est arrivé quelque chose? La peur qu'il soit malade en prison, parce que la maladie est tellement peu prise en charge là-bas, que la peur qu'il se fasse tabasser. On s'est arrivé au compagnon de ma fille. Il s'est retrouvé avec une côte cassée, au mitard, etc. Donc il y a vraiment tout ça qui... Cette peur-là, on la vit sans arrêt. Et ça, c'est usant. Puis ça permet aussi à l'administration pénitentiaire, ils savent, hein, qu'on a peur de tout. Donc ils savent que les parloirs représentent aussi un moyen de pression, forcément. Quand on a fait autant d'efforts pour aller là-bas, quand on a la trouille de tout, ben forcément, on se tait. Hein.
Et ils jouent avec ça
Je pense qu'ils jouent avec ça. Ils sont obligés de maintenir les parloirs pour qu'il n'y ait pas trop de pression à l'intérieur de la prison. Mais bon, ils nous utilisent aussi pour comme moyen de pression. Il n'y a pas de...
Thank you.
est dans le nôtre, un sapir cache son. Qu'il est long, le jour est long, longue des soirées à la télévision. Un certain cinéma, on pense la guerre en lui inventant un sens qu'est la guerre. Il fait des champs de bataille, des enfants féliques et d'achat un cadeau, des numéros en carton.
La Brèche 106.6 tous les premiers vendredis du mois. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00.
Voilà, et puis vite fait, avant de passer aux news, on va parler des sources parce que pendant toute l'émission, on vous a passé pas mal de bandes son. Donc on précise un petit peu ce que c'était. Donc il y avait des extraits d'une pièce de théâtre qui s'appelle Femme de Parloir qui était passée au Zem Théâtre en janvier de cette année. Il y avait des extraits d'interview donc de Douchka qui était la personne qui a écrit le Femme de Parloir, donc le bouquin dont a été tirée la pièce.
Qui et est à l'Esprit Frappeur.
Collection L'Esprit Frappeur, ouais, à 10 boules, je crois, un truc comme ça.
Pas cher.
Ouais, il y a moyen de faire
mieux encore.
Et puis le dernier la dernière bande son, c'était Laurette, donc qu'on interviewait la semaine dernière, et donc voilà, on a tiré pas mal de passages de son interview. Voilà, donc tout de suite, on va présenter les news.
Tout à fait. Et donc une actualité locale pas mal chargée ce mois-là. Donc on va vous parler de plusieurs choses qui se sont passées, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Et s'il nous reste un peu de temps, on parlera d'autres choses. Et d'abord, à propos d'un détenu qui s'appelle Christophe, dont je vais très brièvement rappeler la trajectoire. Donc c'est quelqu'un qui s'est mangé, enfin qui est en taule depuis maintenant 57 mois et qui serait libérable d'ici 2006. Donc comme disait quelqu'un tout à l'heure, qui
qui a écrit plusieurs fois au collectif La Brèche et qui écoutait notre émission à l'époque où il était incarcéré à Douai, donc qui est un prisonnier donc bon rebelle qui se laisse pas faire et qui s'attire donc assez régulièrement
les foudres
de l'administration pénitentiaire et de la matonnerie. Bon, les altercations sont régulières, etc. La maison d'arrêt de Douai, c'est une prison qui est assez petite, donc je pense qu'on a vite fait de connaître l'ensemble du personnel de cette prison. Donc assez brièvement, il a fait une demande de formation qui lui a été refusée. Sur ce, il s'est taillé les veines pour refuser contre ça, aussi en solidarité avec les Turcs en grève de la faim contre l'isolement. Suite à ça, il suivait une activité journal dans la prison. Il s'est fait virer de cette activité journal. Là, il a entamé une grève de la faim et de la soif. Il a été reçu fin décembre par le directeur, qui lui a donc signifié que tout ce qui avait trait à ses convictions anarchistes lui serait refusé. Par exemple, que l'activité journal n'était pas compatible avec ses idées ou avec les idées qu'il comptait amener à l'intérieur de cet atelier, par exemple.
Elle n'allait pas dans le sens de sa réinsertion.
Et ça, c'est pour l'activité journal. Donc ça, il s'en est fait virer. Il a arrêté, suite à cet entretien avec le directeur, sa grève de la faim et de la soif. Et très peu de temps après, bon, tout ça, c'est sur fond d'humiliation et de censure régulière du courrier. Sur ce, il y a de nouveau un courrier qui lui a été censuré. C'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que là, il y a une altercation avec le maton qui est venu lui signifier la censure de la mise à la fouille de son courrier. Et s'en est suivi donc une petite baston avec le maton et son passage au prétoire et sa condamnation à 35 jours de mitard, donc l'espèce de trou avec une espèce de petite paillasse où on moisit sans arrêt. Et donc la durée maximum, c'est de 45 jours. Lui, c'est pas la première fois qu'il se prend des condamnations dans ce genre-là. Suite à ça, il y a un collectif très très rapide qui s'est monté, qui allait déployer une banderole devant la maison d'arrêt de Douai. Ça s'est passé le 11 janvier, le matin. Il faisait très froid au moment des parloirs. Il y a des tracts qui ont été distribués envers les gens qui passaient, mais bon, c'est vrai que c'est pas un grand lieu de passage cet endroit-là. Bon, bref, une toute petite initiative de solidarité qui a quand même été très mal vue par l'administration, aussi par les autorités de Douai à l'extérieur, qui donc ont vite répondu à l'appel de l'administration. Donc il y a eu un contrôle de la police, il y a eu la banderole qui a été arrachée par les matons qui supportaient pas, qui ont même séquestré en fait les gens qui se rendaient au parloir et qui disposaient pour cela d'une petite salle d'attente, qu'on séquestrait les gens à l'intérieur de peur que les membres de ce petit collectif retournent boire un café à l'intérieur ou distribuent leur littérature subversive. Voilà, c'était, et oui, quelque chose quand même de très important à dire, c'est que de Christophe a été transféré à la maison d'arrêt de Maubeuge avant la fin de sa période de mitard, et ce qui pourrait très bien être dû à cette petite initiative, au fait qu'il y avait des gens à l'extérieur qui le soutenaient.
Voilà. Sinon, dans le Pas-de-Calais, toujours pour rester au niveau local, il n'y a pas longtemps, on a entendu parler à peu près dans tous les médias d'un suicide qu'il y a eu à la prison de Longnes, donc dans le 62. Michael Henry qui s'est suicidé à 31 ans, juste pendant la deuxième journée de son procès, en fait, devant la cour d'assises du coin. Et il a juste laissé une lettre pour expliquer pourquoi il est suicidé, etc. C'était le premier cas. Par contre, on n'a pas parlé d'un truc qui s'est passé après, qui est sûrement anecdotique, mais plutôt croustillant comme aventure devant un procureur. C'est le cas de Rachid Aidadi, qui est passé donc il y a quelques semaines, là en mi-janvier 2003, devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer, et qui a pris 8 jours de tôle pour avoir frappé un maton. Donc là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Juste, il faut rappeler l'histoire, c'est qu'en août 2000, il y a le surveillant chargé des sports qui est venu voir Rachid et qui lui a dit que pour lui, il n'y aurait pas de sport. En rappelant que Rachid était plus ou moins turbulent. Et devant le procureur, Rachid a reconnu avoir été énervé effectivement devant ce maton pour ne pas pouvoir faire du sport et lui avoir postillonné dans la figure. Sauf que la réponse du maton a été deux coups de tête. Et c'est pour ça que Rachid s'est vu attaqué en justice pour cette prise de coups de tête par son surveillant. Alors il y a l'avocat Monsieur Doc qui est du parti civil qui a demandé 315 euros de dommages et intérêts pour le pauvre maton qui avait dû employer la force contre ce prisonnier. Et dans son réquisitoire, il y a le procureur de la République qui, sans trop de gêne, a rappelé au prévenu qu'un surveillant de prison, je cite, c'est comme un policier, il est dépositaire de l'autorité publique et que comme un policier, il a le droit d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour maîtriser la personne, y compris la force et la violence dans le strict cas de la légitime défense. Bref, il s'est pris deux coups de tête et 150 euros d'amende et de dommages et intérêts. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi dans le coin.
Rappelez que pour le concert de soutien
à Christophe, voilà, parce qu'on parlait de Christophe, donc Christophe se retrouve dans une situation où voilà, il n'a pas une thune, pas de famille, pas de proches, et donc il a
C'est vraiment un détenu indigent.
Voilà, il fait partie des gens qu'on qualifie d'indigents, et donc il nous a demandé un peu d'aide, et donc il y a un concert de soutien qui aura lieu au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes à Oisem, à Lille, le samedi 22 février à 20h. Donc si vous pouvez passer, ce serait vachement bien.
Rapidement, hein, le temps qu'on finisse, là cette fois-ci ça se passe à Losses-les-Lilles. Alors d'abord au mois de janvier, il y a eu deux suicides. Le 3, il y a eu le décès de Patrick Créteur qui avait 41 ans. 4 jours plus tard, c'est un homme de 30 ans qui s'est suicidé, qu'on a retrouvé suicidé par pendaison. Sinon, il y a dans le quartier des mineurs, il y a eu une tentative d'évasion. Il y en a deux qui ont réussi à sûrement scier les barreaux, à descendre une des grilles de leur cellule.